Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof Jean-François Sénéchal, toujours le même. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI3900. Ça s'appelle et ça s'appelait et ça s'appellera toujours éthique et professionnalisme. Puis, comment ça se passe, votre entrée l'été? Avez-vous eu le temps de récupérer de votre session d'hiver pour vous? En tout cas, moi, je trouve que c'est une transition qui se fait assez rapidement. On passe de l'hiver à l'été. Moi, pendant 2 semaines, là, j'ai quasiment 400 étudiants. Là. J'en ai mes 200 d'hiver et mes 200 d'été. C'est ça, c'est ma vie, c'est la vôtre aussi. C'est une vie stimulante, l'université. Écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de votre podcast préféré, deux sujets. D'abord, merci pour vos présentations sur les forums. Donc, j'ai lu ça, je lis tout. Je commande pas tout, mais je lis tout. Merci de vos... c'est intéressant, des parcours... riche, évidemment, passionnant. Là. C'est beau de voir là, déjà si jeune, mais déjà autant de choses accomplies. D'ailleurs, je vous promets, les 50 premiers qui se sont présentés, je vais vous répondre. C'est ma promesse. Bon, soyez patients, là, ça me prend un peu de temps. Rédiger un courriel à chacune de ces 50 étudiants et étudiantes. Mais en même temps, j'essaie de faire ça aussi, là, même si j'ai 200 étudiants, au moins avec... je me dis, je vais au moins essayer de répondre à 50 d'entre eux, là, essayer de créer déjà ma dynamique avec mon groupe. Je ne peux pas le faire pour les 200, là, vous comprendrez, mais voilà, les 50 premiers, pourquoi pas, vous allez recevoir peut-être le seul badge de votre vie, c'est sûr, pour vous être présenté sur un forum de discussion, mais aussi peut-être le seul courriel de votre vie au bac. Je sais que les profs ne sont pas friands de courriels, mais en même temps, des fois, c'est en tout cas, des courriels personnels, là, c'est important d'en faire aussi, sachez-le. Je réponds personnellement à tout le monde qui m'écrit. Inquiétez-vous pas, là, les courriels, là, ça ne dormira pas dans ma boîte courriel pendant des semaines. Soyez mesurés, je dirais, dans vos demandes. Vous le savez, avec 200, ça se peut que c'est compliqué. Si vous m'écrivez tous les 200 en même temps pour me dire « Salut Jeff, comment ça va? » ça va être long. Donc, mais pour les 50 premiers, en tout cas, là, je vais lire vos présentations puis je vais vous répondre. Puis pour les autres, ben, je vous lis. Puis je trouve vos parcours passionnants, mais en même temps, ça se peut que je n'ai pas le temps de commenter tout ça. Deuxième sujet, bravo aussi pour vos interventions sur vos réflexions sur le forum. Vous savez, j'ai ouvert un forum sur l'histoire de Karen Duhamel. Écoutez, le cours est à peine entamé, mais déjà, plusieurs sont plongés intensément dans le sujet du cours. La vidéo, évidemment, vous l'avez vu, là, c'est assez inquiétant, c'est assez troublant, cette vidéo. Mais en même temps, je ne veux pas non plus traumatiser personne. Là. Peut-être que je pourrais vous rappeler l'intention pédagogique derrière tout ça. Le but, c'est justement de vous faire sentir ce malaise, cet inconfort, ce manque. Hein, avez-vous senti ce manque, là, ce manque d'outils, de ressources? C'est un peu anxiogène, mais en même temps, ça crée ce sentiment d'ouverture qui est nécessaire pour que je puisse vous enseigner, hein, pour que vous ressentiez ce besoin d'avoir un peu plus de contenu et d'informations sur ce qu'est le professionnalisme, puis sur ce qu'est ce système, puisqu'il peut, comment il peut vous soutenir ou vous aider à résoudre ce genre de problème. Ça fait partie des outils, puis des ressources que je vais déployer dans les prochains modules. Puis pour créer cette ouverture-là, il fallait au moins vous mettre en contact avec un vrai problème réel et vous faire ressentir cet inconfort et ces manques. Voilà, on saute dans le module 2. Je suis sûr que vous êtes prêts déjà à sauter dans ce module 2. Il y a deux modules cette semaine, là, ça va vite. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module? Le module 2, on va voir des notions de base, un vocabulaire de base, parce qu'il faut se comprendre. Vous savez, en biologie, en médecine, en physique, en génie électrique, en n'importe quel champ de la science et du génie, il faut se donner un vocabulaire. On se donne des mots pour se comprendre. Ce sera la même chose en matière d'éthique. Là, je vais utiliser des mots, des termes. Puis, c'est un champ de la connaissance où là aussi, on donne des définitions spécifiques et particulières et savantes à certains termes. D'où l'importance là, de vous familiariser tout de suite, là, dès le départ, dès notre module 2, avec le vocabulaire qui sera concerné dans ce cours. Autour de ce vocabulaire, il y aura une grande question, je dirais, la grande question de l'éthique, celle qui va traverser ce module, sinon ce cours. C'est la question du bien et du mal. ni plus ni moins. Ah, je sais que ça fait un peu grossier, c'est un peu noir et blanc, mais en même temps, lorsqu'on parle de philosophie morale, on parle de ça. Évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer, je dirais, le continuum, donc l'espace qui sépare le bien et le mal. Donc, il faut les voir comme deux extrêmes qui n'existent pas vraiment. Il n'y a pas de bien avec un grand B, ni de mal avec un grand M, mais entre les deux, on se promène. Puis c'est dans ces interstices et interactions là, qu'on va se promener dans ce cours. Il y a des termes qu'on va aborder dans ce module 2. C'est quoi l'éthique? C'est quoi la morale? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes? Comment discuter de tout ça? C'est quoi les principaux termes dont vous avez besoin pour voir plus loin, pour mieux comprendre ce qu'est l'éthique? Voilà, donc pour vous, c'est important de vous familiariser tout de suite avec les termes, le vocabulaire, je dirais, en philosophie morale. Puis, entre autres, parce qu'on va utiliser ces termes tout au long de la session, vous aurez besoin de ces termes. Dans ce module, on va voir que, notamment, le terme moral puis le terme éthique, vous allez voir, je l'explique aussi dans l'enregistrement de course, ce sont des termes qui sont presque synonymes. Il y a des nuances qui doivent être faites, mais essentiellement, je vous dirais que les deux termes, ça veut dire essentiellement la même chose. Ce sont lorsqu'on parle de morale, d'éthique, on parle de nos habitudes. En grec, on parlait d'éthos, quand on parle d'habitude. Ce sont nos habitudes, notre éthos. Ce sont nos habitudes de décisionnelles, donc les décisions qu'on a l'habitude de prendre lorsque la question du mal et du bien est posée. C'est quoi je dois faire? Qu'est-ce qui est bien? C'est quoi la bonne décision? C'est quoi la mauvaise décision? Ça fait des siècles qu'on prend ce genre de décision-là. On a pris des habitudes. Et ce sont ces habitudes qu'on va examiner dans ce cours. Ce sont ces habitudes qu'on examine lorsqu'on parle de morale et d'éthique. On parle de bien, de mal. Vous le savez, c'est pas la première fois qu'on se pose ces questions-là dans l'histoire. C'est vieux comme l'histoire de l'homme, je dirais, sinon l'histoire du langage de l'homme, en tout cas. Et ça fait partie des termes qu'on va explorer. On va se concentrer sur, je dirais, sur trois termes, surtout dans ce podcast-là, je vais me concentrer sur trois termes. Les termes seront conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. N'importe quel cours d'éthique en philosophie morale, là, on commence toujours par ces distinctions-là. Je dirais que c'est les trois principales façons de répondre à la question « c'est quoi le bien? Hein? Qu'est-ce que je devrais faire? » Lorsque vous posez cette question devant n'importe quel problème éthique, il y a trois façons d'argumenter pour justifier vos actions, vos décisions, pour justifier, quand vous allez dire là, la bonne décision, c'est A ou B. Là. Donc, si vous dites la bonne décision, c'est A, nécessairement, ce qui va suivre après, ce sont des arguments. Puis les arguments que vous allez créer, ils vont puiser dans un de ces trois grands mouvements que sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Vous irez écouter l'enregistrement de cours que j'ai donné cet hiver. Je vais vous donner plusieurs exemples. Mais en même temps, je dirais, dans n'importe quel débat, là, dès qu'il y a une question un petit peu délicate là, qui parle d'éthique, lorsqu'on pose la question « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire ci, de faire ça? » vous allez voir ces trois principaux types d'argumentaire. Quel exemple que je pourrais vous donner? J'en donne dans le cours, là, mais pour que vous ayez quelque chose de concret en tête. Là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de construire un troisième lien à Québec? Hein? Aussi concret que ça. Est-ce que c'est bien ou mal d'intervenir comme le fait Israël en Palestine? Hein? Donc, ça, c'est une belle question délicate. Hein? Et les arguments qui vont suivre, ils vont puiser, vous irez voir dans les débats ou lorsque vous discutez de tout ça avec vos proches, on puise, quand on crée des arguments, on puise dans ces trois types de raisonnement. Quel autre exemple? Est-ce que, peut-être plus léger, est-ce que c'est bien ou mal d'écouter mes séries télé préférées ou un match de foot sur un site de streaming illégal? C'est-tu bien, c'est-tu mal? Quoi d'autre? Quel genre d'exemple? Est-ce que c'est bien ou mal de tuer une goule sympathique pour survivre dans le monde difficile qu'est celui du Wasteland dans Fallout? Écoutez où ça, Fallout? Ça vient de sortir sur Prime. Moi, j'étais déjà gros fan de la série, là, mais là je suis dans mon élément. J'adore ça. D'ailleurs, je pense que je vais me servir de cet exemple-là là, pour illustrer les trois courants. Parce que, je le disais un peu plus tôt, tous les débats, dès qu'il y a une question délicate, moi, ce que je vous suggère de faire, là, la prochaine fois qu'il y a une question délicate autour de vous, là, puis qu'on se met à dire « ça, c'est bien, ça, c'est mal », ou que ça ressemble à ça, là, essayez d'identifier les trois modes d'argumentation que je vais vous expliquer dans ce podcast, mais aussi dans le cours, en conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Pratiquez-vous, là, autour de vous, si vous voulez que ça soit bien assimilé. Si on prend l'exemple de Fallout, tu sais, je l'ai en tête, là, je viens de terminer la série. Une des questions, il y en a plusieurs, mais une des questions, c'est « est-ce qu'on peut tuer une personne pour survivre? » Hein, c'est une belle vieille question classique. Si on prend cette question-là, là, est-ce que c'est bien de tuer une personne pour survivre? Posez cette question-là à votre prochain souper. Puis, le premier grand mode argumentaire que vous allez entendre autour de vous, c'est souvent le même, c'est le conséquentialisme. Là, c'est quelqu'un qui va vous dire, ben, la bonne décision, c'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Ça dépend du contexte. Puis c'est sûr que si tu fais ça, puis ça permet de générer des conséquences positives, à ce moment-là, c'est bien. Hein? Ce type d'argumentaire-là, là, on verse dans le conséquentialisme. Donc, où on essaie d'avoir le maximum de conséquences positives possibles, puis le minimum de conséquences négatives possibles aussi. C'est là où on va parler, par exemple, du plus grand bien pour le plus grand nombre. Hein? Le plus grand nombre de conséquences positives possibles pour le plus grand nombre de parties prenantes ou d'acteurs concernés. Comme dans Fallout, est-ce que je peux tuer ou non cette personne si c'est pour survivre? Les arguments que vous allez entendre, si on vous dit ben, « c'est utile pour moi et pour mon groupe », alors là, on verse dans le conséquentialisme, je dirais, de type utilitariste, là. Donc, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Si je dis « c'est utile, mais pour moi hein, », les conséquences sont très positives, mais seulement sur moi. Ben, ça, on parle plutôt de conséquentialisme de type utilitariste, égoïste. Hein, vous connaissez ce mot, c'est ce que ça veut dire là, lorsque la personne ne pense qu'aux conséquences positives sur soi, puis oublie les autres. Donc, lorsqu'on parle de conséquentialisme, là, c'est dès qu'on se met, dès que vous entendez autour de vous des gens qui se mettent à argumenter, mais en calculant les conséquences positives, négatives sur moi, sur les autres, sur la population en général, sur le bien commun. Alors, ça aussi, c'est un autre terme. Donc, dès qu'on prend cette voie-là, c'est du conséquentialisme. Donc là, je suis sûr que vous avez plein d'autres exemples autour de vous de situations, de questions délicates, là. Mais testez ça autour de vous, là. Puis à chaque fois qu'une personne tente de vous convaincre que sa décision, c'est la meilleure parce qu'elle génère beaucoup de conséquences de nombreuses conséquences positives sur un très grand nombre de personnes. Ça, c'est du conséquentialisme. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples, moi j'ai parlé de Fallout, puis je vais parler de Fallout pour vous illustrer ces trois courants, mais si vous avez d'autres exemples, vous irez les partager là, sur le forum que j'ai ouvert où je vous pose ce genre de questions-là, puis vous irez partager l'exemple que vous avez en tête, puis ça vous fera un beau point sur 5. Hein, il y a 5 points prévus pour les forums, là, ça vous en fera déjà un de gagner assez aisément. L'autre mode d'argumentation, c'est le déontologisme. Donc, conséquentialisme d'abord, déontologisme ensuite. Le déontologisme, à quoi ça ressemble? Tiens, si on prend toujours mon exemple dans la série Fallout, et ma question, là, je pense que c'est plus simple avec la question, est-ce qu'on peut tuer une personne pour survivre? Si vous posez cette question-là à votre prochain souper ou sur la terrasse avec vos amis, il y a quelqu'un autour de la table qui va vous dire que c'est important aussi de ne pas juste calculer les conséquences. Il y a des règles quand même à respecter. Il y a des principes qu'on doit respecter. Hein? Les personnes ont des droits. On ne peut pas juste calculer puis décider d'éliminer tous ceux qui nous dérangent autour de nous. Dans la série Fallout que j'écoute, elle dit qu'il y a une règle. Elle parle de la règle d'or. C'est une vieille règle en philosophie morale. C'est l'idée qu'on... La règle d'or, c'est on ne fait pas aux autres ce qu'on aimerait, ce qu'on ne souhaiterait pas qu'ils nous fassent. Hein? Donc, c'est l'argument de la réciprocité classique. Puis dans tous les débats moraux, autour de vous, peu importe la question que vous leur posez, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Je comprends ce que tu dis dans ton calcul des conséquences positives et négatives, mais en même temps, il y a des règles morales, il y a des lois, il y a des normes, il y a des principes qui sont inviolables. Ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a un code à respecter, que ce soit un code moral ou un code légal ou un code religieux. Il y a des règles à respecter, puis on ne doit pas en déroger. Et on ajouterait, peu importe les conséquences. » Donc, vous le voyez, là, le déontologisme, souvent, c'est un argumentaire qui répond presque mot pour mot à l'argument conséquentialiste. Peu importe les conséquences, il y a des lois, il y a des règles, il y a des codes, il y a des normes, il y a des principes qui restent inviolables, puis on doit respecter ces lois, ces normes, ces règles. Conséquentialisme et déontologisme, je vais le dire. Ce sont nos deux premiers courants. Un autre, le troisième mode argumentaire que je voulais vous expliquer, c'est l'éthique de la vertu. Là, ici, c'est un mode argumentaire qui est un peu plus complexe, je dirais, notamment parce que là, on ne regarde plus la moralité des actions. Ce qu'on va regarder, c'est la moralité de la personne qui pose ses actions. En matière d'éthique de la vertu, lorsqu'on examine la bonne action à poser, lorsqu'on se pose la question « c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal? » La réponse à cette question, lorsqu'on puise dans l'éthique de la vertu, la réponse à ça, c'est la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise une personne qui incarne les grandes vertus que sont la sagesse, la prudence, le courage, la tempérance. Donc, on ne vous dit pas exactement c'est quoi la sagesse, la prudence, le courage, la tempérance, mais on vous dit c'est ça la bonne décision, c'est d'être courageux, prudent, tempérant, juste. Quel exemple? Est-ce qu'il y a des exemples dans Fallout? Oui, il y a un peu. Dans Fallout, il y a... Elle se dit... moi, lorsque j'ai des décisions délicates à prendre, elle se dit, je vais agir comme mon papa. Hein? C'est son père, son guide moral. je vais agir comme mon papa, qui, lui, incarne les grandes vertus que sont le courage, la prudence, la justice, la tempérance. Mais, donc, dans Fallout, il y a ça. Mais il y en a, je dirais qu'il y en a dans à peu près toutes les séries ou la culture geek qui est populaire que vous écoutez, que ce soit dans Marvels, dans DC, Harry Potter, il y a ça, Star Wars, The Office, Shogun, que j'écoute en ce moment. Nommez votre série préférée, là. Il y a plein d'exemples d'éthique de la vertu aussi. Puis l'éthique de la vertu, vous allez la reconnaître dans vos séries préférées. Lorsqu'une personne se demande quoi faire, elle va se demander c'est quoi la bonne décision. Puis une autre personne autour d'elle qui va lui dire la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise ton mentor. Hein? C'est celle qu'aurait prise Gandalf ou Obi-Wan. Puis c'est celle aussi qui n'aurait pas prise Voldemort ou Vador. Tiens, pour reprendre ces deux exemples-là. Alors, la bonne décision, c'est la décision qu'aurait prise la personne qui incarne les grandes vertus. Hein. C'est la personne qui, que ce soit ton père, ta mère, ton héros moral préféré, ton personnage religieux préféré. Ça aussi, ça en est de l'éthique de la vertu. Là. Lorsqu'on dit « agis comme le fait le prophète »,« agis comme l'aurait fait Jésus-Christ », tu sais, pour reprendre les deux grandes religions ici autour de vous, on appelle à l'éthique de la vertu. Hein, c'est exactement ça. Vous aurez des problèmes difficiles et la bonne façon de répondre, la bonne décision, c'est celle qui correspond à celle qu'aurait prise votre personnage vertueux préféré, celui qui incarne le courage, la sagesse, la tempérance, la prudence et la justice. Voilà, c'est ça l'éthique de la vertu. Trois courants, donc, et je vous disais que peu importe le débat éthique, vous allez retrouver ces trois mouvements, chaque débat moral autour de vous, là, vont vous rappeler que ces trois mouvements-là, ces trois modes argumentaires sont en dialogue, ils interagissent entre eux, puis je dirais que la sagesse morale pratique sur le terrain, là, ça se construit, ça se dessine dans les interactions entre ces trois grands modes argumentaires. Et dans ce module 2, bon, on ne va pas réinventer la roue, là, on va parler d'éthique. On va parler de philo-morale, on va vous apprendre à vous familiariser avec ces trois grands modes argumentaires, puis c'est déjà important là, que minimalement vous soyez initié à ces trois grands mouvements en philosophie morale. Ce sont trois géants en philo-morale, puis qui dialoguent, qui interagissent, puis depuis des centaines et centaines d'années là, que la question du bien et du mal est invoquée, il y a des philosophes qui s'inscrivent plus naturellement dans le courant conséquentialiste, d'autres plus dans le courant déontologique. Je pense à Immanuel Kant, par exemple, qui s'inscrit dans cette voie-là. Conséquentialisme, on a Jérémy Bentham, qui est un philosophe qui s'inscrit. Mais la philosophie, c'est ça aussi, là, c'est les interactions entre ces philosophes. C'est pas juste un qui a raison, là. C'est le dialogue entre ces philosophes-là qui incarnent des dialogues qui sévissent encore aujourd'hui lorsque la question est du mal se pose. Dans l'enregistrement de cours cette semaine, donc dans ce module 2, vous allez voir aussi, on a une bien belle discussion en classe pour discuter, illustrer ces trois grands mouvements. Vous allez voir, on va avoir cette discussion autour d'un... Je dirais que c'est l'expérience classique là, pour explorer ces trois mouvements en éthique. C'est l'expérience du tramway. Vous avez sûrement entendu parler du tramway, là. C'est-à-dire que c'est une expérience de pensée, on dit aux étudiants ou à n'importe qui commence à réfléchir à tout ça. On a un tramway. Il s'approche d'un croisement de rails, puis il a deux choix. Soit aller tout droit, puis dans la voie 1, il y aura cinq morts, où on le fait dévier dans la voie 2. Puis à ce moment-là, il y a un mort. Puis là, on dit aux étudiants ou à celles et ceux qui tentent cette expérience de pensée, c'est quoi la bonne décision? Puis là, on regarde les arguments. C'est ce que vous allez voir en classe. C'est assez classique. D'ailleurs, l'exemple du tramway, là, c'est un vieux problème d'éthique. C'est repris dans la culture populaire. Il y a plein de beaux mimes, d'ailleurs, des mimes savoureux. Je vais vous en présenter quelques-uns en classe, là, mais il y en a plein. Écoutez, il y a une page de mimes juste sur le dilemme du tramway. Cherchez « trolley problem », qui est la traduction. Du dilemme du tramway, puis vous allez voir que vous risquez de vous amuser. Je vais vous en présenter d'ailleurs quelques-uns en classe. Et donc, vous allez voir dans l'enregistrement de cours, je ne fais pas seulement me contenter du dilemme du tramway. Vous allez voir, on va explorer la version un peu plus moderne, je dirais, de ce dilemme. C'est le même dilemme à peu près, mais appliqué à des voitures autonomes et de l'intelligence artificielle. Hein, c'est une belle façon de moderniser tout ça. Il y a eu des expériences qui ont été faites au MIT, aux États-Unis, à Boston. Puis, on a fait ça. Donc, on a créé des scénarios où, à gauche, l'automobile autonome tue 5 personnes. Puis, à droite, l'automobile autonome tue une personne, puis là, on pose cette question-là en ligne, puis on regarde comment que les personnes y répondent. Il y a toutes sortes de variations autour de... Donc, il n'y a pas juste ce dilemme-là, il y a plein de sortes de dilemmes. Vous irez voir les dilemmes que j'ai posés en classe. À gauche, si vous allez à gauche, c'est 5 hommes. Si vous allez à droite, c'est 5 femmes. C'est quoi la bonne décision? Si vous allez à gauche, c'est 5 enfants. Si vous allez à droite, c'est 3 vieillards et 2 chats. Donc... Ce genre de questions-là, c'est assez amusant, parce que c'est une expérience de pensée, là, mais c'est intéressant de voir les arguments qu'on va déployer pour justifier notre choix, parce que ce faisant, en mobilisant des arguments, on puise naturellement dans les trois grands mouvements que sont l'éthique de la vertu, le conséquentialisme et le déontologisme. Puis vous allez voir ce débat-là et cette discussion-là se créer en classe. C'est fascinant de revoir ces trois beaux grands mouvements, là, ce dialogue se répéter encore une fois en 2024 dans une classe d'éthique. Dans le cours du module 2 aussi, je vais vous donner, vous allez voir l'enregistrement de cours, je vais donner plusieurs exemples des citations qui sont extraits, un peu comme je l'ai fait dans ce podcast, là. Des extraits qui sont puisés dans la culture geek et populaire. Vous allez voir, il y a quelques exemples puisés dans l'univers de Marvel, évidemment. Mais de Star Wars, Harry Potter aussi. En fait, j'essaie de le faire, là, de puiser dans la culture populaire pour... Même si ce sont des thèmes sérieux, c'est intéressant de puiser dans la culture populaire et geek, entre autres parce que celles et ceux qui écrivent, là, c'est petits morceaux de la culture populaire, ils connaissent leurs classiques, ils puisent dans la philosophie parfois sans même s'en rendre compte. Puis c'est intéressant d'aller puiser dans l'univers de la BD ou des grands films ou des séries télé pour réexplorer tout ça. Dans le cours, je vais explorer, mais je sais pas, la décision d'Iron Man, par exemple, est-ce qu'elle incarne le conséquentialisme? Puis le choix-peau d'Harry Potter, est-ce que c'est un peu de l'éthique de la vertu? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le code de Mandalore dans le Mandalorian, est-ce que c'est pas un modèle d'argumentaire déontologique? Ah, vous voyez un peu là, les liens que j'essaye de tisser. Ce sont des thèmes sérieux, je le dis, mais en même temps, c'est important que vous preniez l'habitude de tisser des liens entre un contenu de cours qui est de la philo, puis votre propre culture. C'est important que vous tissez ces vrais liens. C'est comme ça que la connaissance se conçoit puis se construit. Ce n'est pas juste en écoutant un prof parler puis dire les choses. Là. C'est en essayant vous-même de créer ces petits chemins-là là, dans votre cerveau, d'où l'importance de puiser dans votre propre culture. Vous avez sûrement des exemples en tête là, de décisions morales complexes qui ont été prises par vos personnages préférés. Hein, c'était quoi leur raison d'agir, puis c'était quoi leurs arguments, puis c'est quoi pour eux leur conception du bien, puis c'est quoi une bonne raison d'agir pour eux. Puis à chaque fois que vous avez ces exemples en tête, essayez de faire des liens avec les trois grands mouvements que je vous ai expliqués un peu plus tôt. D'ailleurs, je vous invite à aller partager vos réflexions sur les forums de discussion. J'en parlais un peu plus tôt, là, mais c'est impressionnant. Vous irez voir les réflexions de vos collègues, entre autres. Vous irez voir les morceaux préférés de vos collègues en matière de culture populaire. C'est impressionnant de voir les liens puis les analyses soignées et profondes que certains font de la culture populaire puis de leur BD ou série télé préférée ou film préféré, des personnages qu'ils ont rencontrés qui ont influencé leur vie, puis comment ils sont capables de tisser des liens savants et très pertinents entre le contenu de cours puis leurs exemples qu'ils ont en tête lorsqu'on parle de culture populaire. Puis, lorsque vous serez bon en cette matière là, pour tisser ce genre de lien-là, lorsque pour vous, ce sera un réflexe là, de prendre un morceau de la culture populaire puis de faire des liens avec le déontologisme, le conséquentialisme ou l'éthique de la vertu, quand vous aurez appris à faire ça, vous ne pourrez plus désapprendre. Ce sera problématique parce que vous allez aller au cinéma ou vous allez écouter une série télé. Puis là, vous allez vous demander, bon, ben la décision de Thanos, là, est-ce que c'est du déontologisme ou du conséquentialisme ou de l'éthique de la vertu? Puis là, ben vous penserez à moi, puis vous direz quel monstre il a fait de moi. Puis vous aurez probablement aussi mal à la tête que moi lorsque je sors d'un visionnement comme ça, là, toujours en train de me poser des questions philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi a-t-il pris cette décision-là? C'est quoi les arguments qu'il avait en tête? Puis pour peut-être les plus concrets d'entre vous, là, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà irrités par ces trop nombreuses références à la culture geek et populaire. Pour vous, là, j'ai ouvert un forum sur le contexte de crise et de gestion de pandémie de la COVID-19. Là. Je sais qu'il y en a qui sont bien tannés d'en entendre parler. Il y en a qui veulent. On est dans le déni un peu en ce moment, je pense, là, comme société. Là, on veut plus en entendre parler. Mais en même temps, si vous avez le recul puis l'intérêt de le faire, il y a plein de décisions qui ont été prises à l'époque, que ce soit par la santé publique ou par des personnes autour de vous qui illustrent très bien ces modes de raisonnement. Donc, pensez à n'importe quelle question qui se posait à l'époque. Le couvre-feu, la vaccination obligatoire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il y a plein d'arguments qui ont été déployés autour de vous. Puis ces arguments-là aussi puisaient dans le conséquentialisme, l'éthique de la vertu, puis le déontologisme. Donc pour vous, ça vous chante de replonger un peu dans ce contexte-là. Là, vous trouverez plein d'exemples pour illustrer ces trois grands modes de raisonnement. Puis pour celles et ceux qui veulent quelque chose de plus concret sans nécessairement puiser dans la culture populaire, bien, créez votre propre forum, posez votre propre question réaliste, concrète, peut-être une question qui est en lien avec nos décideurs politiques, mais vous allez voir dans n'importe quel débat social, n'importe quel débat sociaux, on va le mettre au pluriel, il y a toujours ce genre d'argumentaire, puis à chaque fois on puise dans ces trois grands modes d'argumentaire, que ce soit un débat autour du végétarisme, de la crise environnementale, la violence dans les jeux vidéo. Chaque débat, il y a des arguments. Puis à chaque fois, vous allez voir, on va se lancer dans ces trois types d'arguments que sont les arguments conséquentialistes, déontologiques et éthiques de la vertu. Puis l'important pour vous, je le disais un peu plus tôt, c'est que ce soit dans votre étude ou dans votre participation au forum de discussion, l'important pour vous, c'est de tisser des liens entre ces arguments, entre ces affirmations de celles et ceux qui prétendent tous l'agir en fonction du bien, mais de voir que derrière ces affirmations, il y a des arguments. Puis derrière chacun de ces arguments, il y a des courants philosophiques. Puis des courants philosophiques, il y en a trois que je vous demanderai d'identifier et de reconnaître à travers tout ça. Autre terme important que vous allez rencontrer dans ce cours, que vous allez voir dans l'enregistrement de cours, c'est le terme professionnalisme. Donc, on commence notre réflexion autour du professionnalisme dans ce module 2. C'est un terme très important, vous l'avez compris. Hein, dans le titre, là, il y a éthique et professionnalisme, donc on se doute que professionnalisme, ce sera un mot important. On va le voir tout au long de la session. Je dirais que la définition, on commence à la donner au module 2, mais c'est une définition qui va s'enrichir tout au long de la session. C'est quoi un professionnel? C'est quoi qui nous permet de distinguer un professionnel d'une personne qui exerce un travail, un métier, qui a une occupation, une job? C'est quoi le système professionnel? C'est quoi un code professionnel? À quoi ça sert? Un code professionnel. À quoi sert le système professionnel? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Vous le voyez là, il y a plein de questions qui sont associées à ça, puis on va commencer à les explorer dans ce module 2. Quoi d'autre dans ce module 2 ou dans cet épisode 2 du podcast? Mais peut-être faire avec vous sur le début de la session, là, je vous avais dit qu'on pourrait regarder au début de la session votre feuille de route. Hein, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine ou dans ce module 2? C'est quoi votre liste de tâches que vous devez faire? Je vous le rappelle, puis je vous le répète, chaque semaine, j'ouvre un module. Des fois, il y a deux modules par semaine. Puis à chaque module, le premier onglet, ça vous donne un sommaire du module avec des objectifs. Mais dans le deuxième onglet, que j'ai nommé « Contenu », vous allez trouver une marche à suivre. Cette marche à suivre, c'est votre liste de tâches que vous devez faire. Donc, prenez la liste, là, puis faites des petits X à côté. Par exemple, cette semaine, il est écrit dans votre liste de tâches 1. Écoutez le podcast du cours. C'est votre première tâche. Vous l'avez fait. Vous avez presque fini. Bravo, déjà deux podcasts de suite. C'est fou. Hein? Vous allez avoir un A là, dans ce cours. C'est sûr, là, si vous continuez à ce rythme. 2. Écoutez l'enregistrement du cours que j'ai donné cet hiver. Vous allez voir, c'est un enregistrement. J'ai fait un montage pour les deux premiers modules. J'ai mis l'enregistrement sur YouTube. Là, ça me permet d'enlever les pauses. Puis, des fois, il y a des petites parenthèses ou des fois, quand j'attends la question de l'étudiant, il y a un petit délai. Là. Donc, je fais quelques coupures pour accélérer tout ça, mais ça reste quand même un enregistrement de 2 heures. Là. Ça vous permet d'avoir aussi les sous-titres quand je le téléverse sur YouTube. Allez écouter ça. Vous allez voir, j'explique les principales notions que il y en a plusieurs que j'ai déjà expliquées aujourd'hui, mais on va voir d'autres termes. Morale, éthique, j'en ai parlé un peu. Professionnalisme un peu. Déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. J'en ai parlé pas mal de ces trois derniers dans le podcast. Vous allez voir aussi dans l'enregistrement de cours, j'en parlais un peu plus tôt, on va avoir notre belle discussion sur le problème du tramway, puis l'application avec les automobiles, l'intelligence artificielle. Une bien belle discussion, là, j'ai hâte que vous l'entendiez. Troisième tâche cette semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez lire. Ben oui, il y a des textes à lire hein, dans ce cours. Vous avez remarqué que j'ai mis des fois la lecture attentive ou lecture sommaire. C'est une façon de vous dire que ce n'est pas parce que c'est à lire que vous devez le lire de la même façon. Quand je dis lecture sommaire, ça veut dire que vous le lisez en diagonale. Le but, c'est de le lire, de se l'approprier. Mais vous le lisez comme vous lisez un texte. Quel genre de texte que vous pouvez lire en diagonale? Un article qui vous intéresse, là, sur un sujet qui vous intéresse, mais le but, ce n'est pas de surligner ou d'apprendre par cœur ce qui est écrit dans cet article-là. Par exemple, je vous ai dit lecture sommaire du cahier. Il y a un cahier spécial là, sur les professions, sur la semaine des professionnels. C'est un article qui avait été publié à l'époque dans Le Devoir. C'est une lecture sommaire. on passe à travers le texte, on regarde, peut-être lisez, peut-être un peu plus attentivement, il y a des textes qui concernent votre profession en particulier. S'il y a un texte sur les chimistes, ben allez lire ça si vous êtes chimiste ou de futur chimiste. Si vous êtes ingénieur, regardez plutôt les textes qui concernent la profession d'ingénieur. Sinon, l'autre texte à lire, c'est le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault. C'est toujours le même, il y a un ouvrage, il est gratuit, il est en ligne. Donc déjà, déjà l'effort, vous l'avez fait au chapitre 1, là, au module 1, si ce n'est pas encore fait, essayez de tester l'outil pour voir, pour vous assurer que vous ayez accès au moins à l'ouvrage. Puis une fois que vous avez ouvert l'ouvrage, cette semaine, on ajoute une tâche, une lecture attentive du chapitre 3 qui est intitulé « Professionnalisme et délibération éthique ». Donc, une lecture attentive, on passe à travers, on fait attention à la structure, on essaie d'identifier les principales notions qui sont abordées dans ce texte. Le but, ce n'est pas de tout connaître du texte, mais c'est quand même d'essayer de comprendre assez précisément là, ce que Georges A. Legault est en train de vous raconter. Donc ça fait partie de vos lectures cette semaine. Quoi d'autre? En 4, vous devez compléter le questionnaire d'auto-évaluation. Donc il y a un questionnaire à peu près dans tous les modules. Il y en a un aussi dans le module 2. Vous allez faire ce questionnaire. Il est intitulé « Conséquentialisme et déontologisme ». Donc, vous comprenez un peu où on s'en va avec ce questionnaire. En 5, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous devez participer au forum du module 2. Je vous ai expliqué la teneur de ces forums un peu plus tôt dans ce podcast. 6, vous devez faire quoi? Vous devez constituer vos équipes pour les travaux pratiques. Encore une fois, c'est la première semaine. Dépêchez-vous de constituer votre équipe. Ça vous permettra de sauter rapidement dans le premier TP. Donc, c'est ce que vous devez faire cette semaine. Et si vous faites tout ça, ben vous aurez atteint les objectifs du module 2. D'ailleurs, parlant des objectifs du module 2, parlons des objectifs en général. Je sais que vous ne faites peut-être pas attention à ces objectifs, mais dans un cours universitaire qui est bien conçu, en tout cas le mien, j'ai fait des efforts pour bien le concevoir, typiquement, ces objectifs sont directement reliés à des questions potentielles pour votre examen. Ce que je vous dis, c'est que... Puis là, c'est un secret, là. Ce que je vous dis, c'est qu'à la fin du cours... Mon examen va cibler exactement les objectifs des modules. Ce que je vous dis, c'est pas un secret, là. Ce que je vous dis, c'est que l'examen final, il va y avoir à peu près 30 questions, disons 2 questions par module. Puis chaque question que je vais poser va me servir à vérifier si vous avez atteint un des objectifs de module. Ah, c'est simple. Si vous regardez les objectifs, dites-vous quel type de questions il pourrait me poser dans l'examen final pour vérifier si j'ai atteint ces objectifs ou cet objectif. Ça me semble une façon de faire assez honnête. Je vous dis c'est quoi les objectifs, puis dans mon examen, je vérifie si vous avez atteint les objectifs. Par exemple, dans ce module 2, à l'examen, je vais vérifier si vous avez atteint les objectifs du module 2. Puis dans le module 2, je vous dis, les objectifs, c'est de distinguer le professionnalisme tel qu'il est promu au sein du système professionnel québécois des multiples sens et usages des termes professionnels et professionnalisme dans la vie ordinaire. Donc ça, pour comprendre ce que je veux dire par cet objectif-là, vous devez lire le texte de Legault. Puis à la fin du texte, vous serez capable de dire c'est quoi le professionnalisme? C'est quoi le professionnalisme tel qu'il est promu par mon système professionnel? Puis c'est quoi le professionnalisme dans la vie de tous les jours? Puis dans la vie de tous les jours, vous connaissez les multiples usages du terme professionnel. Vous l'utilisez tout le temps, ce terme-là autour de vous. Maintenant, c'est quoi que le système professionnel veut nous dire plus précisément lorsqu'il dit le terme professionnel? Puis pour ça, vous devez lire le texte de Legault. Le deuxième objectif, c'est de distinguer et définir les termes morale, éthique, droit, déontologie, vertu. Hein? Déjà, on en a fait un bout dans ce podcast, mais dans l'enregistrement de cours, vous allez voir d'autres notions, d'autres explications que je vais donner pour vous permettre de mieux définir et distinguer ces termes. Et le troisième objectif du module 2, c'est d'être capable de distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche inspirée de l'éthique de la vertu. Puis déjà, si vous avez écouté le podcast attentivement, vous devriez déjà être plus à même ou plus habileté à distinguer ces trois approches. Un argument qui s'inspire du conséquentialisme, un argument qui s'inspire du déontologisme ou de l'éthique de la vertu. Êtes-vous capable de les reconnaître? Êtes-vous capable de les distinguer? Et si vous êtes déjà capable, ou si déjà vous avez des exemples en tête, ou si déjà vous vous êtes pratiqué sur les forums, ben vous avez déjà atteint cet objectif du module 2, puis vous êtes prêt à répondre à n'importe quelle question que je poserai à l'examen concernant cet objectif précis du module 2. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout. J'ai prévu un autre épisode cette semaine, mais dans cet épisode, cette semaine, je vais le publier probablement vendredi. Je vais vous expliquer les différentes évaluations de ce cours. C'est important que vous écoutiez ça si vous ne vous êtes pas rendu à la fin de l'enregistrement de cours. Par contre, si vous écoutez la dernière partie de l'enregistrement de cours, j'explique aussi ces évaluations-là. Donc, il faut faire au moins un ou l'autre. Soit on écoute la dernière partie du cours, l'enregistrement de cours, ou soit vous écoutez l'épisode ce vendredi, puisque dans ces deux alternatives, je vais vous expliquer les différentes évaluations de votre cours qui est éthique et professionnalisme. Sinon, bravo pour votre écoute des podcasts. Déjà deux en banque. D'ailleurs, plusieurs m'ont déjà fourni leurs preuves de leur écoute des podcasts. Puis je vois aussi les statistiques de téléchargement. C'est ce qui est le fun avec les hébergeurs. Là, on voit qui m'écoute, combien m'écoute, puis où vous êtes dans le monde, puis quel type d'appareil vous utilisez pour m'écouter. C'est beau à voir. Certains aussi vont nous visionner sur YouTube. C'est passionnant de voir ça, voir cette... il y a quelques années, je me suis dit, je vais leur faire un podcast. Ça va les aider à étudier autrement. Ça va leur donner un mode alternatif pour apprendre ou pour explorer un contenu de cours. Je le vois encore, là, c'est une formule qui plaît plutôt à plusieurs d'entre vous. Pas à tout le monde, mais à ceux que ça plaît. Puis c'est l'été, c'est une belle façon de consommer du contenu autrement, en marchant, en prenant du beau temps, parce qu'il faut le faire. Hein. Je vous dis, investissez du cours, investissez du temps dans votre cours, mais aussi prenez le temps, c'est l'été, hein, de passer du temps avec vos amis, vos proches, c'est important. Prenez soin de vous. On se revoit ici même la semaine prochaine ou vendredi même, on va se voir dans cet épisode et dans ce troisième épisode de votre podcast cette session. D'ici là, prenez soin de vous encore. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, il est assez simple. Il va comme suit. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, chaque épisode, je vous donne un indice. Puis pour vous, ben, vous prenez en note cet indice et vous me transmettez par courriel cet indice. Puis moi, c'est une façon de savoir et de cumuler vos preuves que vous avez bel et bien écouté le podcast jusqu'à la fin, dans ce cas-ci, parce que l'indice, il sera à la fin de ce podcast. Parfois, je le cache à l'intérieur du podcast, mais pour vous, le travail est simple. Lorsque vous entendez l'indice, vous le prenez en note, vous me le transmettez par courriel. Et cette semaine, l'indice, c'est le suivant. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Allez, bye bye.